Eh bien écoutez, dans la Bible, ça fonctionne pareil. Ça fonctionne pareil. Ceux qui ont voulu réécrire ou écrire après coup ce qu'ils ont expérimenté de la présence de Dieu dans leur histoire, ils vont de temps en temps décrire, reproduire tel épisode, tel moment, tel, et ils vont prendre un grand récit. Et puis à d'autres moments, ils vont produire à partir de tel ou tel détail, telle ou telle mise en scène, même si ça ne s'est pas exactement réalisé de cette manière. C'est comme ça que Jésus travaille ses interlocuteurs avec des paraboles pour parler du royaume. Il va produire, il va expliquer comment le déjà du royaume est possible quand un samaritain va aller secourir quelqu'un qui est malade. De fait, il produit de l'émotion, il produit du sens dans le cœur de l'autre, alors que ça ne s'est peut-être pas tout à fait produit comme ça, réalisé comme ça. Il est en phase de produire du sens. Peut-être a-t-il assisté à une scène où il n'y avait pas qu'une personne, c'était peut-être pas seulement sur la route de Jéricho, il n'y a peut-être pas eu un prêtre et un lévite qui étaient passés avant. On n'en sait rien, c'est une parabole. En revanche, il monte cette histoire pour produire du sens. Ça part peut-être de faits réels, mais ces faits réels, il les arrange dans une parabole, dans une histoire, fictive en partie, peut-être en partie, peut-être totalement, je n'en sais rien. Il est là, à travers cette histoire, pour produire un effet sur celui à qui il s'adresse, en l'occurrence le légiste. On est en Luc chapitre 10, le légiste qui vient de lui poser la question: « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. » Ben dis donc, c'est qui mon prochain ? Et bien de fait, il va produire à ce moment-là, avec cette parabole, du sens pour que lui-même, le légiste, trouve la réponse à sa question. Ceci dit, il réécrit l'histoire, mais en la transformant, en l'adaptant. Voilà la différence entre reproduction ou production. Voyez ce que je veux dire. Et donc, les textes bibliques sont comme ça. Vous croyez que dans le désert, pendant des 40 ans d'Exode, ils prenaient des notes tous les jours? Peut-être certains le faisaient-ils. Sur quel support, etc., on n'en sait rien. Une chose est sûre, c'est que ça a été écrit beaucoup plus tard et mis surtout en forme, même s'il y a eu des bouts qui ont été écrits, ça a été mis en forme quand ils étaient en Babylonie, donc au 7e siècle, 7e, 6e siècle, en exil. Là, ils ont eu le besoin de réécrire toute cette expérience de l'Exode pour que, pendant l'exil, ils trouvent de quoi garder courage alors qu'ils étaient en déportation. Et donc, ils ont produit à partir d'éléments qui ont été transmis par oral et certains éléments par écrit. Et puis, vous savez, quand on écrit l'histoire, on a des approches diversifiées. C'est pour ça que je vous mets sur le papier l'analyste, celui qui écrit des annales. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va mettre des dates et il met les dates les unes après les autres. Donc il se contente de faire un timing. C'est la succession des rois, par exemple. C'est la succession des présidents de la République. C'est la succession des épisodes dans la Bible. Voilà. Il y a eu Moïse, puis après il y a eu David, puis après il y a eu etc. etc. Bon. Mais l'historien, lui, quand il a toutes ces dates en place, lui, il va essayer de trouver des connexions entre les épisodes les uns après les autres. Et il va essayer de dire, tiens, il y a eu tel épisode qui s'est passé après tel autre, il y a peut-être un lien entre les deux qui peut s'expliquer de telle manière. Il veut essayer de trouver des connexions. Le philosophe, lui, va trouver du sens à ces connexions. Et à partir du sens trouvé par l'historien à ces connexions, le philosophe va mettre en perspective pour dire, il y a une lecture qu'on peut faire qui nous oriente vers tel sens et donc il ouvre vers l'avenir. Le théologien, lui, il prend tous ces épisodes, il prend tous ces apports de l'historien, du philosophe, et il va y découvrir la patte ou la révélation ou la présence du divin. Et le théologien, son travail de théologien, est de prendre tous ces faits et de découvrir comment, à travers cette succession dans laquelle les historiens ont mis leur science, dans laquelle le philosophe a permis d'exprimer un sens, c'est le coup que je vous ai fait tout à l'heure, l'exil, qui trouve du sens ou une perspective en relisant l'Exode. Et bien, de fait, le théologien, lui, va y voir l'intervention de Dieu ou un message de Dieu. De même que toi, mon peuple, tu as été en exode et que c'était une épreuve pour toi et que par la foi, tu t'es fié à moi, donc tu as pu accéder à la terre promise. De la même manière, toi qui es en exil actuellement, fie-toi à moi, garde foi en moi. Et alors, si tu te fies à mes paroles, tu reviendras à Jérusalem. Le théologien va faire parler Dieu ou permettre que les humains qui vivent ces épisodes découvrent la présence de Dieu dans cette succession d'épisodes historiques. Et c'est ça dans la Bible. Dans la Bible, ce sont ces successions d'épisodes qui sont relus à la lumière de la présence et de la révélation et donc de l'intervention de Dieu. Vous voyez ? Et donc la Bible, c'est ça. Ce n'est pas une succession d'épisodes, ce n'est pas une succession qui s'explique uniquement par l'histoire, c'est le théologien qui a pris tel et tel épisode et qui y a vu la révélation de Dieu. C'est comme cela que les généalogies de Jésus sont présentées d'abord en deux versions, celle de Matthieu et celle de Luc. Elles sont présentées en deux versions différentes et en plus elles ont des trous. Elles ont des invraisemblances historiques, si vous regardez bien. Eh bien, reprenez-les, l'historien lui est gêné parce qu'il y a des trous, alors il va faire des hypothèses. Le philosophe va faire des hypothèses, mais bon, ben voilà, c'est qui celui-là dont on ne peut pas faire l'arbre généalogique. Il va rester, il va développer sur l'ontologie de Jésus de Nazareth. Mais le théologien, lui, va y voir l'intervention de Dieu. C'est dans une histoire généalogique humaine que Jésus se prend chair et se révèle à nous, mais cette histoire, même si elle est véritablement humaine, elle nous échappe. Il y a un mystère, puisqu'on ne peut pas tout reconstituer de la généalogie de Jésus, on ne peut pas mettre la main dessus, et on ne peut pas faire comme ses congénères de Nazareth, dire on sait exactement d'où il vient, on sait qui il est, on connaît ses parents, donc il n'a plus rien à nous apprendre. Non, ça fait partie du mystère de la personne même de Jésus-Christ. Vous voyez, là, c'est le théologien qui relie l'histoire. Eh bien, la Bible, elle fonctionne comme cela. N'ayons pas peur des incohérences ou des invraisemblances historiques. C'est tout à fait normal quand on comprend justement tout ce processus de mise par écrit dans lequel, en fait, le théologien... Théologien, c'est tous les rédacteurs bibliques, celui qui exprime un discours sur Dieu, eh bien, a mis en œuvre et par écrit ces différents épisodes. Est-ce que ça va ? Ceux qui écrivent la Bible ont une stratégie narrative. Ça, ceux qui m'entendent de temps en temps, vous savez bien, j'utilise souvent ce mot-là, mais ce n'est pas seulement moi. Ils ont chacun une stratégie narrative. Encore une fois, Luc, l'exemple le plus flagrant, c'est Luc. L'évangéliste Luc, dans son prologue, chapitre 1 de son évangile, versets 1 à 4, « Il m'a plu, cher Théophile, bienheureux Théophile, il m'a plu d'aller me renseigner auprès des témoins oculaires, autrement dit, œuvre d'historien, j'ai essayé d'avoir des infos quand même, et puis il m'a plu, à partir de là, de mettre en œuvre, d'organiser ainsi un récit bien ordonnancé, non pas pour te faire découvrir qui est Jésus, mais pour solidifier ta foi, nuance. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire l'historique et présenter la vie de Jésus, sinon il n'aurait pas laissé un trou entre l'adolescence de Jésus et le début de sa vie publique. Entre 12 ans et 30 ans, il y en a eu des années où Jésus a dû vivre des choses, il a dû en dire des choses, il a dû en faire des choses. Comment ça se fait qu'on n'a pas l'info ? Ben, Luc, il a considéré que ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'est de signifier quand même jusqu'à 12 ans, il nous dit déjà des choses de sa mission, et puis que l'essentiel se dit à partir de 30 ans, et qu'entre les deux, ça ne servira pas notre foi que de les rapporter. Ce qui lui importe, c'est de nous dire ce qui s'est passé entre 30 et 33 ans, grosso modo, pendant sa vie publique. Donc il y a une stratégie narrative, il a sélectionné des passages, des parties, il les a organisées pour que ça nous serve, nous les théophiles d'aujourd'hui. Il a une stratégie narrative de servir notre foi. C'est pas pour rien que lui va parler de la parabole du père et des deux fils, le soi-disant fils prodigue, alors que les autres évangélistes n'en ont pas parlé. C'est pas pour rien que lui va prendre soin de nous rapporter l'échange entre Jésus et le bon larron sur la croix, alors que les autres évangélistes n'en parlent pas. Lui, pour lui, ça lui sert à convaincre de foi ce Théophile, et à travers ce Théophile, nous-mêmes, parce qu'il a une stratégie narrative propre. Et ce faisant, on a quatre chemins pour entendre parler de Jésus, puisque nous avons quatre évangiles, quatre portraits de Jésus, mais pas des portraits comme tels, des portraits qui nous sont parlants de quatre manières différentes. Vous voyez ? Petit aparté sur les apocryphes, je ne vais pas rester longtemps dessus, mais quand même, signalons-le. Les apocryphes, je le dis toujours, parce que si on parle de la question, si on part de la question « quelle vérité dans la Bible ?», souvent il est de bon ton de dire « oh là là, l'Église d'autorité a décidé que ça c'était la Bible, mais enfin il y a des livres à côté qui sont apocryphes, donc l'Église a quelque chose à cacher. » Et ça veut dire que surtout, ça va, elle ne veut surtout pas que ça sache, donc attention que ça reste secret, etc. C'est surtout faux de raisonner comme ça, puisque les apocryphes sont public. Vous en avez peut-être chez vous des livres apocryphes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez dès demain matin ou même dès soir aller regarder sur internet. Vous pourrez les lire et ils sont en libre circulation dans le commerce. Allez à la FNAC, hein, vous les avez. Hein. Ils sont publiés, les livres apocryphes. Donc l'Église ne les empêche pas, qu'on ne vienne pas taxer l'Église de ça. Simplement, ces livres n'ont pas été retenus par les communautés chrétiennes, les premières communautés chrétiennes, n'ont pas été retenus dans leur usage. L'usage des communautés, usage pour la catéchèse, la transmission de la foi, l'usage pour la liturgie, l'usage pour la prière, les communautés ne les ont pas retenus, les ont mis de côté, parce que les ayant utilisés un petit peu, ils se sont rendus compte que ça desservait leur foi. Et c'est parce que ces communautés ne les ont pas utilisées, les ont mises de côté, que lorsque l'Église, au XVIe siècle, le Concile de Trente, a été mise en demeure de fixer le canon, c'était la réforme et contre-réforme, il a fallu statuer sur les livres canoniques, et bien de fait, l'Église a entériné le fait que ces livres apocryphes avaient été mis de côté par les premières communautés, puisque d'expérience, ces livres ne servaient pas la foi, au contraire, les desservaient. Mais une fois cela dit, ils sont tout à fait en libre accès. Mais le fait qu'ils soient pas dans le canon veut bien dire, attention, si vous les lisez, n'attendez pas qu'ils viennent vous soutenir dans la foi. Point. Au contraire, ça va plus vous compliquer le chemin de foi qu'autre chose. C'est ça les apocryphes. Donc la vérité dans la Bible, elle ne consiste pas à cacher des choses et à mettre en dehors des choses que l'Église voudrait garder secrètes. Hein. Ça c'est vraiment un faux procès. Ça va jusque là hein? Apocrypto, le mot est le pire qui soit, parce qu'ils ne sont apocryphes que de nom. Apocrypto, c'est-à-dire caché justement, ils ne sont pas cachés, ils sont publics. Ça va ? Ça tient ? C'est bon ? Jusque-là, vous n'avez rien appris. Hein. Je trouve que c'est important simplement de se remettre dans cette perspective et dans ce contexte par rapport au texte biblique. Ensuite, lecture et interprétation. N'oublions pas que la lecture, l'acte de lecture, il est nécessaire. Et que la Bible, c'est quelque chose qui est à lire. C'est un livre à lire. Et qu'il faut absolument faire un travail de lecture. Alors, point 2.1. Pendant très longtemps, l'acte de lecture de la Bible consistait, si vous voulez, la recherche sur la Bible, consistait à aller regarder ce que les auteurs, d'abord qui étaient les auteurs et ce qu'ils ont voulu dire. On se mettait du point de vue du rédacteur biblique, de l'auteur biblique. Et c'est comme ça que la préoccupation, c'était quand est-ce que ça a été écrit, par qui, par quoi, comment, en plusieurs couches, à quel moment, quel était le projet à l'époque, etc. On ne regardait que cette espèce de reconstitution de l'archéologie du texte. Il y a un passage, tel livre qui a été écrit, donc l'évangile de Matthieu dans les années 70-80, l'évangile de Marc, manifestement années 60-70, après Jésus-Christ. La première lettre avoir été écrite par Paul, premier écrit chrétien, c'est la première aux Thessaloniciens, entre 49 et 52 après Jésus-Christ. On essayait vraiment de travailler sur le plan de l'origine et de la mise par écrit des textes. Alors c'est extrêmement important parce que ça nous a permis de comprendre plein de choses. Comment les textes ont été écrits, dans quel contexte culturel, dans quel contexte religieux, philosophique, etc. Ça, c'était très important. Mais c'est peut-être aussi pour cela que les textes bibliques ont été présentés souvent comme assez inaccessibles ou une affaire de spécialistes. Parce qu'il fallait être vraiment très au fait pour commencer à oser comprendre quelque chose et interpréter le texte. Et c'est vrai que dans notre Église, dans notre tradition, je dis bien là pour le coup catholique, pendant très longtemps, on était obnubilés par ça et ça nous a empêchés d'entrer dans un acte de lecture, j'allais dire un peu décomplexé et responsable. C'est une affaire de spécialiste. En plus, à partir du moment où c'était une affaire de spécialiste, c'était le texte biblique, c'était un peu compliqué, il y avait des choses qui étaient un peu étonnantes. Ce que je vous disais tout à l'heure, les deux généalogies de Jésus qui se contredisent. Bon, alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Bon, on préférait ne pas les utiliser. Parce que ça allait gêner la lecture, ça allait gêner, pensait-on, de fait, la foi des lecteurs. Et c'est comme ça qu'en liturgie, avant Vatican II, ben, on avait en fait uniquement des textes, un nombre très limité de textes, c'est-à-dire on avait un texte pour le dimanche, un seul texte, peut-être un autre, mais c'était surtout un évangile, et puis ce texte, il était servi tous les jours de la semaine, et puis on changeait de texte après. Mais, et ça, comme ça, tous les ans les mêmes textes, c'est-à-dire le nombre de textes utilisés en liturgie était extrêmement limité. Le nombre de textes qui étaient à disposition de tous les croyants était très 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 limité parce que la Bible, ça faisait peur, on avait peur qu'elle soit pas assez comprise et donc que ça ne sert pas la foi et donc la prière en liturgie. Et puis, prenez l'exemple des célébrations de sépulture. Célébrations de sépulture, avant Vatican II, vous n'aviez pas le choix, on n'avait pas le fête des saisons, etc., hein, ou le rituel. Pour choisir des textes de sépulture, c'était systématiquement l'évangile de Lazare. Systématiquement, il n'y avait pas autre chose. Pas autre chose, à chaque fois. Pas de choix. Parce que, au moins ça, on savait peut-être en tirer quelque chose dans cette situation liturgique, mais les autres, non. Donc, on avait une espèce de pauvreté, mais sans doute par peur et par le fait que le texte, on était obnubilé par la quête. Hein, c'était la méthode dite historico-critique, la quête scientifique du texte, comment était-il établi et quelquefois qu'on interpréterait mal, que ça desserve. Et c'est pour ça que je vous mets la méthode historico-critique où la Bible a l'épreuve de la science. On allait plutôt chercher dans les lieux autorisés comment l'archéologie voulait aller confirmer ou infirmer tel ou tel passage biblique. L'archéologie, je vous rappelle que l'archéologie appliquée à la Bible n'a commencé à être mise en œuvre qu'à la fin du 19e siècle. Avant la fin du 19e siècle, on n'allait pas fouiller les sites religieux, les sites de Terre Sainte. C'est seulement fin 19e. Vous comprenez bien que tout ça, c'est pendant le 20e siècle qu'on était très sur la réserve en disant « qu'est-ce qu'on va découvrir ?» La découverte des fouilles de Jéricho avec cette fameuse grande tour de Jéricho, avec ces fameuses fortifications de Jéricho pour essayer de comprendre l'épisode des trompettes de Jéricho, ça date de 1925-1930. Et c'est tout, pas avant. Et donc à ce moment-là, on a remis en question la lecture du texte des trompettes de Jéricho à cause de l'archéologie aussi. Ben, au total, on ne sait plus quoi penser de ce texte, comment l'interpréter. Est-ce que l'archéologie ne vient pas de fait détruire ce qu'on peut lire a priori sans se poser de questions de ce texte, etc. On était mal à l'aise, disons-le. Et donc c'est pour ça que on n'était pas dans une dynamique de lecture et d'appropriation du texte biblique, sauf dans des proportions très très limitées, disons-le. Bible et mythologie, on est encore gêné aujourd'hui. Est-ce que Monsieur Adam, Madame Ève ont-ils existé? Est-ce qu'ils ont existé vraiment? Alors certains vont dire, et très heureux de dire, oh, oui, c'est de la mythologie. Pardon, non, c'est un texte biblique. Il n'a pas un statut de mythologie. C'est un texte biblique théologique qui emprunte à des récits mythologiques, mais il a été retravaillé, modifié pour avoir un statut théologique, etc., etc. Est-ce que vous croyez que la mer s'est ouverte en deux, hein, avec Moïse? Alors on était pris par ça, on a essayé de chercher scientifiquement ce qui était possible de comprendre, etc. Mais on ne faisait pas l'acte de lecture en se disant qu'est-ce que le récit vient me dire. Vous voyez, on était bloqué par ça.